כך זה מיישם עליכם תחיו לאורך ימים טובים ושנים נעימים. Nous sommes, nous poursuivons notre étude de Parashat Yitro et nous revenons un instant sur le premier des commandements. Alors, quand Hakadosh Baruch Hu se dévoile à Am Israël par la parole, la première parole, et il leur enseigne Anochi Hashem Elohecha. Cette formule est l'enseignement. Le dévoilement et l'enseignement. Alors, que signifie Anochi Hashem Elohecha? Je suis l'Éternel ton Dieu. Hashem, c'est la mida de Hesed, de bonté absolue. Et Elohecha, c'est indique la crainte, la tribu de rigueur. Alors, comment faut-il appréhender le dévoilement de Hakadosh Baruch Hu dans le Mahamad Arsinaï. Alors on dit le Mechilta. Amar Rabbi Hama Bar Papa. Au moment où Akadosh Baruch Hu formule et indique, enseigne les Aseret Adibrot, il dévoile la Torah. Nous dit Rav Hama Bar Papa, Era la'em panim zo'afot, panim benoniot, panim masbirot, panim tzohakot. Il leur a montré quatre visages. Une fois, au début, il leur montre un visage coléreux, zorafot. Puis il leur montre un visage moyen, benoniot, ni compatissant, ni trop coléreux. Puis il leur montre un visage compatissant, panim masbirot, puis il leur montre panim tzohakot, un visage, une face rayonnante, joyeuse. Alors poursuit le Mechilta, il dit panim zorafot, la mikra. Quand il leur enseigne le texte écrit de la Torah, alors il leur montra un visage coléreux. Bon, pour que alors, on poursuit le Chacham, il dit que chez Adam et la Mède et Beno Torah, c'est le Lamdo Behema. Quand un homme enseigne à son fils, quand il est petit, la Torah écrite, les psukim, le Mikra, il faut qu'il lui enseigne avec une grande crainte, que l'enfant puisse s'imprégner de la réelle crainte de la puissance redoutable de Hakadosh Baruch Hu. Puis, quand il lui enseigne la Mishnah, plus tard, quand il lui enseignera la Mishnah, alors là, il lui enseigne avec un visage moyen, ni trop sévère, ni trop gentil. Quand il lui enseigne le Talmud, la Gemara, alors là, il faut qu'il lui enseigne avec un visage et une attitude compatissante, aimable, masbirot, afin que l'enfant puisse comprendre le sens des raisonnements. Puis, panim tzohakot, quand il s'agit de la Haggadah, quand il lui enseigne les secrets de la Torah, là, il doit lui enseigner avec un visage rayonnant, joyeux et aimable. Donc, ici, nous avons une progression. Donc, l'enfant, au début, il est petit, alors on lui apprend à lire les psukim. Puis, un peu plus tard, on lui apprend un peu de Mishnah. Puis, il grandit encore, il poursuit son apprentissage. On lui apprend le raisonnement talmudique, la discussion talmudique et toutes les imbrications du raisonnement. Puis, quand il évolue encore plus, il parvient à pénétrer les mystères de la Torah. Donc il y a quatre manières d'enseigner. À chaque étape, il convient d'enseigner d'une certaine manière. Alors sur ça, s'interrogent les commentateurs. Et a priori, il aurait été, c'est l'inverse qui aurait été plus judicieux. En effet, dans la Gemara, il est dit que qu'un homme il ne doit pas trop alourdir sa sévérité et les sanctions sur ses enfants quand ils sont petits. Quand il leur enseigne, quand ils sont petits, jusqu'à 16 ans, nous dit la Gemara, il est déconseillé d'alourdir les sanctions et les rigueurs et la sévérité sur l'enfant. Parce qu'il ne comprend pas. Donc quand on lui enseigne, il faut lui enseigner avec amour et amabilité, gentillesse. Et c'est à partir de 16 ans, là, il faut être plus sévère, parce que bon, justement, l'enfant peut comprendre. À 16 ans, c'est la période de l'adolescence, donc il risque de se laisser aller. Donc il convient de le corriger, de lui mettre des règles, d'être plus sévère dans les règles. Et après 22 ans, alors là, il ne peut plus alourdir ses sanctions. Et il peut poursuivre son enseignement de manière plus apaisée. Voilà que de cette Gemara-là dans Kiddushin, il semble ressortir que c'est l'inverse de ce qui se passe là, puisque un enfant, d'abord on lui enseigne le Chumash, le Mikra, et là quand Akadosh Baruch Hu a enseigné le Mikra, il avait un visage coléreux, dur, la rigueur totale. Alors ça aurait été l'inverse qu'il aurait fallu. Alors comment comprendre cette démarche, ce que indique le Midrash Mechilta? Alors a priori, il ne s'agit pas d'agir. Quand Kadosh Baruch Hu enseigne « Ira la'em panim zorafot », il ne s'agit pas d'en déduire que quand on enseigne, que quand le père enseigne à son fils quand il est petit, le Mikra, c'est l'âge du Mikra, et qu'il faille le sanctionner et le corriger avec dureté et inflexibilité. Bien au contraire, nous disent les commentateurs, c'est l'inverse, c'est le père qui doit être, quand il enseigne, il faut lui enseigner avec crainte. C'est pas qu'il faut lui imposer la crainte à l'enfant, c'est que le père doit avoir une énorme crainte, il doit enseigner avec celui qui enseigne doit avoir une très grande Emma Veira de Kadosh Baruch Hu. Mais par rapport à l'enfant, il doit être aimable, il doit être compatissant, il doit lui enseigner avec amabilité et gentillesse. Mais lui, pour lui, c'est lui qui doit être enveloppé de la crainte maximum. Et cette crainte-là va s'estomper, va se radoucir, s'amoindrir au fur et à mesure que l'enfant grandit, que le père lui enseigne les autres disciplines de la Torah. Après le Mikra, quand il sera en âge, plus tard, il lui enseignera la Mishnah. Alors là, le père doit lui enseigner avec Panim Masbirot. Après, il va lui enseigner le Talmud. Alors là, la Mishnah avec Panim Benoniot. Après, quand il lui enseigne le Talmud, Panim Masbirot. Et plus tard, quand l'enfant évoluera, grandira et poursuivra son apprentissage jusqu'à atteindre la Haggadah, donc les secrets de la Torah, là, il va lui enseigner avec joie et rayonnement. Il va rayonner de bonheur et de joie et de satisfaction. Donc c'est l'attitude que doit avoir le père. Et non pas celle des midot qu'il doit appliquer à son fils. Bien au contraire. C'est quand l'enfant va apprendre le Talmud, c'est à partir de l'âge où il est apte à apprendre le Talmud, le raisonnement, que l'enfant va acquérir justement. Et c'est là, c'est à partir d'un âge un peu avancé, à l'adolescence, qu'il faut être plus sévère avec lui. Cette idée-là, c'est Akadosh Baruch Hu montre la pédagogie qu'il faut adopter, les manières que pour réussir l'enseignement. Alors, pourquoi c'est ainsi? Parce que Rabbeinu Ha'ari nous enseigne qu'il y a quatre mondes. Alors, quels sont les différents degrés de l'enseignement de la Torah? Alors, nous dit Rabbeinu Ha'ari, nous dit que, et c'est ainsi mentionné dans plusieurs endroits dans le Zohar, que il faut comprendre que le Mikra est le niveau le premier, donc il est au niveau le plus bas. Donc il y a le Pshat, le Remez, le Drush et le Sod. Il y a le sens littéral, donc on lit les Psukim, le texte du Tanakh au sens simple. C'est la première étape de l'apprentissage. Cette étape-là reste au niveau du monde de l'action, le monde matériel. Puis, on évolue et on grimpe, on franchit une étape, on monte un étage et on arrive au monde Olam HaYetzira. Le Olam HaYetzira, c'est le monde de la Mishnah et des commentaires. Les commentaires, les Midrashim, les commentaires. Alors là, c'est une évolution. C'est la deuxième étape de l'ascension. Puis vient le Olam HaBriya, c'est le niveau du Talmud, c'est un niveau éminent. Puis vient le monde de la Hatzilut, là où se trouvent les secrets profonds et mystérieux de sens profond de la Torah. Donc c'est l'évolution normale de l'enseignement. Et chacun doit aspirer, doit avoir l'ambition d'acquérir ces quatre niveaux de connaissances. C'est cela, c'est comme nous l'avons déjà indiqué à plusieurs reprises, que c'est le sens du mot « Vayam Shamoa Tishmeaou ». Quand on commence l'apprentissage du premier niveau, de la lecture simple, il faut avoir l'ambition, le désir ardent d'atteindre tous les niveaux de compréhension. Donc, il ne s'agit pas de s'interrompre, d'avoir la volonté d'apprendre qu'un niveau ou deux niveaux, il faut avoir la volonté d'adopter, de comprendre la globalité de la Torah. De sorte que lorsqu'on atteint le sommet de l'échelle, on a véritablement acquis même le sens littéral. Le sens littéral de l'étude n'est totalement acquis, c'est-à-dire qu'on prend conscience véritablement du sens du texte, que lorsque on arrive au plus haut niveau de la connaissance et qu'on maîtrise véritablement, si cela peut se faire, le sens de l'enseignement et de la science. Donc c'est ça l'évolution. Donc il s'agit au maître, au père, de donner l'exemple. Alors si le père, quand il enseigne à son fils, il est panim zorafot, c'est-à-dire que il s'agit de mettre, quand je vous montre un visage entre guillemets coléreux et dur qui inspire la crainte et l'effroi. Il ne s'agit pas de l'imposer à l'enfant, mais que l'enseignant est. Et donc l'enfant, quand il va observer son maître qui lui enseigne, il va être influencé par cette crainte. Alors que le maître, quand il lui-même montre et agit et est enveloppé de la crainte, de l'effroi, de la puissance de Dieu, il va agir, donc il applique à lui-même, et il va agir avec bonté vis-à-vis de l'enfant. Donc l'enfant va être attentif, et il va avoir, ça va donner envie à l'enfant d'apprendre et d'être curieux, et d'avoir encore soif de connaissances. Et c'est comme ça que l'évolution va se faire. Alors, nous dit Rabbeinu Ha'ari, pourquoi quand on enseigne, on étudie le texte, le pshat, le sens simple des psukim, il faudrait avoir autant de crainte? Et parce que dans le Olam HaAsiya, Donc, dans les quatre mondes, dans le monde de la matérialité, dans ce monde-là, majoritairement, ce qui domine, c'est les clipotes, c'est la force de Touma, la force, les forces de nuisance sont dominantes. Et le bien, le bon, la Kedusha est reléguée, est enfouie, n'est pas apparente. Elle est pas majoritaire. Donc là, pour lutter contre l'influence des forces de Klipa, alors il s'agit d'avoir énormément de crainte. Il va y avoir une très grande Yirat Shamayim, une grande frayeur, étudiée avec frayeur et tremblement, sueur et effroi, de telle sorte sur soi-même, de telle sorte que on parvienne à chasser l'influence des forces négatives. Quand on passe au Olam Hayetzira, le monde supérieur, là où on va apprendre la Mishnah, là, les influences et les puissances néfastes sont moindres. Alors là, il s'agit de diminuer la crainte. On peut associer à la crainte d'avoir une crainte moyenne. Quand on passe au niveau supérieur qui est le monde de la Bria, de la création, là où on va commencer, donc on a évolué, l'enfant a grandi. Donc on va lui apprendre Bepanim Masbirot, avec un visage aimable et compatissant, de sorte que la compréhension puisse se transmettre. Parce que là, majoritairement, le monde, le bien est dominant. Le mal est peu, est minoritaire. Quand on passe au niveau supérieur, alors là, il faut étudier avec ferveur, joie et amour, rayonnement, parce que là, majoritairement, le Olam Atzilut ne contient que du positif. Il n'y a pas là de place pour les forces de nuisance. Donc c'est ça l'évolution qui se passe dans cette pratique de l'étude. Et encore une fois, il s'agit de celui qui enseigne, qui doit donner l'exemple essentiel de ce que HaKadosh Baruch Hu veut nous montrer à travers cet enseignement du Mechilta, c'est que il ne s'agit pas d'appliquer des sentences et des règles lourdes sur l'enfant ou l'élève, il s'agit de lui donner l'exemple. Et cette évolution-là, elle va permettre à véritablement donner envie à l'élève, à l'enfant, de progresser. Donc c'est ça l'idée qui est mentionnée ici. Certes, que quand l'enfant grandit, il s'agit de lui mettre des limites et d'être plus rigoureux avec lui parce qu'il est en âge de comprendre le sens des sanctions et le sens de la correction. Mais il ne s'agit pas de l'oppresser, de l'envelopper dans un état d'esprit de se sentir, qu'il se sente totalement étouffé par les rigueurs. Justement, il s'agit de limiter l'influence des rigueurs. Mais ça, le sens véritable de l'enseignement. Alors, l'idée, c'est certes que, en fin de compte, quand on arrive au haut du sommet et qu'on a étudié le pshat, le remez, qui fait allusion, c'est la Mishnah. La Mishnah, c'est la pratique des mitzvot. Comment pratiquer la halakha stricte, simple, au niveau de la pratique. Puis, la compréhension de cette halakha-là dans le Gemara. Le pourquoi et le comment du raisonnement. Puis, on arrive au secret, au tamé à mitzvot, la raison profonde de chaque halakha. Donc, quand on arrive en haut du sommet, on comprend véritablement le sens tout le texte écrit prend son sens. On comprend, on peut retrouver le remède, la référence du secret de tout le système de la halakha, de la raison de la halakha, et de la raison de la mitzvah, le sod de la Torah, tout se retrouve dans le texte. Et le texte, en vérité, contient tous ces niveaux-là. Donc, et cela doit permettre à quoi? La Torah est une Torah, certes, une Torah de loi, mais la loi doit être travaillée de telle sorte que la Torah, de la Torah jaillissent les lumières de bonté. À Kadosh Baruch Hu, il est dit dans le mot Anochi lui-même est traduit dans la Gemara. La Gemara fait l'acronyme de ce mot Anochi. Comment Rabbi Yochanan interprète ce mot? Ana nafshi katavit yahavit. Il dit moi-même, c'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu kibor, c'est mon être, c'est ma volonté que j'ai mise par écrit et que je vous ai octroyé, attribué. Donc, et la définition même du nom Hachem, du nom de Dieu, c'est la bonté. Certes, la bonté est associée à la rigueur, mais essentiellement, la rigueur, c'est une manière de manifester comment nous devons appréhender la puissance de Dieu. Afin d'avoir une véritable crainte révérentielle, non pas la crainte de la sanction, mais la crainte révérentielle de la puissance de Dieu. Mais Dieu, en fait, lui-même, à Kadosh Baruch Hu, il est bonté, puisque sa volonté première n'est que bonté, c'est la volonté de créer, de donner la vie. Et ça, c'est bonté et amour. C'est ce qui doit, c'est de notre étude, la Torah n'étant pas autre chose que l'essence même de sa volonté, et il n'y a pas de différence, nous ne devons pas faire de différence entre sa volonté et le Créateur lui-même, puisque « Kutcha berichu oraita v'Israël hadu » la Torah et Dieu ne font qu'un. Donc c'est la volonté de Dieu, d'Akadosh Baruch Hu, quand il donne la Torah, et qu'il nous invite à l'étudier, c'est de faire jaillir de la loi les bontés. Donc c'est le sens même de l'étude particulière de la Gemara. La Gemara est appelée, la Torah orale est appelée, elle est qualifiée Bamchasha Kim Oshivani. Le psalmiste dit « Tu m'as placé dans l'obscurité ». Donc, Zou Talmud Babli, c'est le Talmud de Babylone, la Gemara, est obscur, et comme pesant, une obscurité pesante. Il faut arriver dans cette obscurité, dans cette complexité, à faire jaillir les lumières, c'est-à-dire arriver à faire jaillir, à parvenir à établir une halakha claire, halakha pesuka, de manière claire, juste et vraie, telle qui traduit la véritable volonté d'Akadosh Baruch Hu à travers la Torah. Et à ce sujet, Chachamim disent qu'il est préférable, celui qui étudie beaucoup, il doit parvenir à autoriser. Koach de etera adif. Il est préférable d'autoriser, certes, il y a énormément d'interdits, mais il ne faut pas en rajouter. C'est-à-dire ce qui est, il faut arriver à étudier pour faire jaillir le corps, la puissance de des bontés. Alors la Torah a deux facettes. Il y a les commandements positifs qui manifestent la bonté, et les commandements et les interdits à ne pas transgresser, ce qui sont l'expression des rigueurs. Quand on étudie, ce qui est interdit est interdit, ce qui est autorisé, il faut l'autoriser. Et il y a des règles pour cela. Donc, dans les cas compliqués, alors il faut que le chacham s'investisse, s'immerge dans l'océan du savoir pour parvenir à ce qui est a priori interdit puisse devenir permis. Selon les règles, il ne s'agit pas d'autoriser tout ce qui est interdit. Il s'agit dans certains cas, de faire en sorte que la domination, donner la préférence, l'avantage à l'autorisation. Ce que Chacham dit, ils expriment cela par l'expression koah d'etera adif. Et le mot et la valeur numérique, quand on analyse cette expression, alors la valeur numérique de cette expression, alors koah ça fait valeur numérique de 28, d'etera c'est 620, référence au keter, aux 620 lettres qui composent les dix commandements. Adif, valeur numérique 164. Alors, les rachets et votes, c'est Kaf, Dalet, Aïm, ça fait 94. 94, c'est le 36e nom des 72 noms composés de trois lettres qui sont mentionnés dans Parashat Béchalar. Il y a trois versets là-bas qui ont 72 lettres chacun, desquels nous composons les 72, il y a 216 lettres donc, qui est la Gvoura, la puissance, la Yir'a, et c'est de ces trois versets, de ces lettres-là, que se composent les noms de la création, les noms Shem, ce que nous appelons Shem Amforash. Et le 36e nom, donc comment ça se compose, Rachid dit dans Souka, comprend la première lettre du premier verset, et la dernière lettre du deuxième verset, et la première lettre du troisième verset. De sorte qu'on compose ainsi à chaque fois, un nom de trois lettres. Et le 36e nom est le suivant, même Nun Dalet. Même Nun Dalet, valeur numérique 94. Et le sens qu'il y a dans ce nom, c'est qu'il est entouré, c'est-à-dire qu'il donne, c'est un nom qui va faire émerger la domination des bontés sur les rigueurs. En effet, 93, c'est 92, c'est Pachad, c'est la crainte. 93, c'est comme nous l'avons indiqué, dans les trois mondes, il y a les trois mondes de la les trois premiers mondes de la création sont tous l'expression du Shem Kel, Aleph Lamed, qui indique la toute puissance de Dieu à travers l'expression des bontés. Alors, dans le monde le plus bas, ce nom-là est associé dans la Maasiya, donc le monde le plus bas, il est associé au nom Ado, plus loin Nai, 60, valeur numérique 65. 65 et 31, ça fait 96. Tzav et Béni Israël. Donc c'est le premier. Donc c'est le El, le Shem El, il vient adoucir le monde de la Asiya, le monde de la matérialité. Puis, au second monde, dans le second monde, dans la Tfila, c'est quand nous commençons Baruch She'amar. Là, il s'agit du Olam Hayetzira. Et là, le nom, il est El, associé au Shem Havaya, Yud Ke Vav Ke. Et là, la valeur, donc, c'est un monde intermédiaire. Donc, on voit que ici, et on a gravi le nom de Dieu, il est exprimé par la bonté. Donc, il y a encore le nom El. Quand nous arrivons au troisième monde, alors dans la Tfila, c'est quand nous commençons le Yotzer, après le Kaddish. Là, le nom, il évolue. Et il est El Shaddai. Parce que c'est le monde de la, c'est les noms qui ont permis la création. C'est comme si que dans la matrice de la formation, laboratoire dans lequel Akadosh Baruch Hu a combiné les éléments de la création, il a associé ces deux noms-là, El et Shakai. Donc là, Shakai, c'est la rigueur. Parce que pour qu'il puisse y avoir la vie, alors il faut qu'il y ait une limite à chaque élément créé. Alors là aussi, il y a un Shem Kel. Donc trois fois Kel, ça fait Magen, ça fait 93, c'est l'expression des bontés. Et en associant les quatre, les trois Kel que nous avons dit, on va combiner les trois mondes, parce que les mondes, ils s'emboîtent les uns aux autres. En s'emboîtant, ils s'unissent. Alors on ajoute un pour unir le tout, ça fait 94. Donc 94, c'est donner la préférence, l'augmentation des puissances de bonté sur les rigueurs, ce qui va permettre à la vie de se perpétuer. Et c'est ça le sens véritable du koar de hetera. C'est ça le sens qu'il faut donner à l'expression de la permission, rendre, en fin de compte, rendre ce qui est permis, à parvenir à faire jaillir de ce qui paraît être interdit, de parvenir à faire jaillir les bontés, de sorte de dominer les rigueurs. Alors revenons à l'instant, nous avons dit que ces trois mots forment ont la valeur numérique de 812. Mais qu'est-ce que ce 812? Alors 812, c'est la composition de tous ces en opposé de toutes les clipotes possibles et imaginables. Donc nous avons trois clipotes fondamentales qui sont symbolisées par le hamor, l'âne, la matérialité. Le chor, l'orgueil, et la colère, la colère. Donc c'est un à droite, un à gauche. Et le milieu, le composant des deux, c'est le kelev. Donc il y a trois clipotes, il y a yedurot. Comme c'est marqué dans plusieurs noms, dans le Zohar. Hamor, chor, va kelev. Et ces trois-là, les rachets et vols de ces trois-là, c'est l'obscurité. Hoshech, het, shin, kaf. Donc pour contrebalancer cela, pour arriver à les maîtriser, à les réduire et à les éloigner, donc il s'agit de c'est ça que fait référence Koar de Hetera Adif. C'est ce que ont voulu indiquer les sages en disant que le Talmud qui est qualifié Bamchashechim, qui est qualifié d'obscurité, de tunnel obscur, alors duquel il faut faire jaillir la lumière. Alors la lumière, c'est la juste halakha, la vraie halakha, juste, qui correspond à ce que doit être la volonté divine, mais en donnant préférence et avantage à l'intention de trouver, de faire jaillir les bontés. C'est ça le sens de Koar de Hetera Adif. Donc certes, il est évident, encore une fois, que ce qui est interdit, on ne peut pas le permettre. Et que on ne permet que ce qui est fondamentalement permis. Donc, il est préférable. Parfois, on est porté à interdire ou à faire une barrière ou. Alors, ce qui est permis, il faut le permettre. Ainsi qu'en nous disant à Kippour, dans le vidouille de Kippour, en nous disant, j'ai interdit ce que tu as autorisé. Et les sophétévot de ce koar de hetera, c'est het aleph p. C'est les rachets des votes de Ahaf. Ahaf fait référence aux lumières du visage. Aleph, c'est la lumière de l'écoute. C'est la force de l'écoute, de la compréhension profonde. Het, c'est hotam. C'est le nez. Le nez qui manifeste véritablement qui indique le visage. Le visage, la Gemara, elle dit, on reconnaît quelqu'un s'il a son nez. S'il a pas le nez, on risque de ne pas le reconnaître. Un cadavre, par exemple. Donc, c'est l'expression panim. Panim, c'est quand on dit le visage panim, c'est comme il y a marqué dans le Mechilta, il y a la même panim, tzohakot. Le panim, c'est fait référence au haf. Et le haf signifie colère, mais il doit être maîtrisé. Donc c'est la respiration, c'est qu'il faut apaiser la colère. On sent une bonne odeur, on s'apaise. Donc c'est au niveau de la respiration et de la senteur. Et le P est la bouche. Donc il s'agit de composer, et le P c'est la bouche. Donc c'est en vérité dans les Sfarim HaKdoshim, ces trois composants sont les trois niveaux d'énergie qu'il s'agit de composer, de conjuguer, de sorte que puissent jaillir les bontés. Donc maîtriser les rigueurs et faire jaillir les bontés. C'est ça le sens profond de Anochi Hashem Elohecha, Kadosh Baruch Hu a dévoilé son visage, Anochi, c'est moi, c'est comme nous l'avons dit, c'est son être qui se dévoile, et son être n'est que bonté, et Hachem Elohecha, donc Hachem doit dominer le Elohecha. Certes, il faut avoir la crainte, comme nous l'avons dit, c'est le maître qui doit avoir la crainte, il doit avoir une véritable crainte, de sorte de maîtriser la crainte et de faire jaillir le éther, la permission, qu'il soit. Quand on a énormément de crainte, alors on va pouvoir maîtriser les rigueurs de telle sorte qu'on n'a plus la crainte, entre guillemets, d'autoriser. Parce qu'on a maîtrisé les rigueurs et on arrive à autoriser véritablement ce qui est autorisé et pas à interdire ce qui est autorisé. C'est l'essentiel de ce qui est dit dans ce Mechilta-là. Et ajoute les Chachamim. Chachamim disent que souvent, le fait de, c'est du fait, comment, le Malach Raphaël, Rabbi Raphaël Bardugo, dans son commentaire, c'est un rabbin qui a vécu au Maroc au 17e, il indique comment cela se fait-il qu'il y a des idées de négation de la présence de Dieu, où les gens s'éloignent de l'application des mitzvot et adoptent des théories et des idéaux autres. Il dit parce que souvent, par crainte, les rabbins interdisent ce qui est permis. Et la conséquence de ça, c'est l'augmentation des rigueurs. Et les rigueurs, les lokim, alors on a peur. Et la ramification des rigueurs, c'est que les individus, tellement que les rigueurs se ramifient, alors et l'excroissance des rigueurs, c'est l'adoption de l'idolâtrie. Elohim Aherim. Le Elohim, quand il est poussé à l'extrême, il produit Aherim. Et les gens s'écartent, et les gens deviennent Aher. Ils se détachent de la tradition et se détourne de la pratique des mitzvot et en se justifiant avec comme en inventant des théories qui nient l'existence la véracité de la Torah et de Hakadosh Baruch Hu. Donc c'est ça la leçon essentielle et c'est ça la leçon qu'il faut adopter et Hakadosh Baruch Hu doit si on a la crainte de Dieu alors nous serons amenés à étudier la Torah pour en faire jaillir les lumières d'amour et de bonté. Baruch Adonai le'olam. Amen ve'amen.